On a eu le plaisir sur Radio Primitive de poser quelques questions à Vincent Clerc-Gironnet, comédien et créateur de la compagnie Demain il fera jour, à l'occasion de la représentation de son spectacle Le sonneur à ventre jaune, qui sera à découvrir mercredi 19 mars au campus Croix-Rouge. Alors déjà, première question, Vincent, pourquoi ce nom Le sonneur à ventre jaune?
C'est le nom d'un petit amphibien, un petit crapaud, qui mesure entre 3,5 et 5,5 cm. Et qui a pris l'habitude de se reproduire dans les ornières de tracteurs. Alors pourquoi s'intéresser à ce petit amphibien? Bah, au départ, c'est parce que je rencontre un chercheur qui travaille à Boulle-Taubois, qui s'appelle Rémi Elder, qui dirige un centre de recherche éthologique qui étudie ce petit crapaud depuis une trentaine d'années. Et il m'explique que son travail, c'est d'aller essayer de convaincre les forestiers d'arrêter de reboucher leurs ornières de tracteur ou d'arrêter de repasser dans leurs ornières de tracteur, justement pour protéger ce petit amphibien qui, sur le massif sur lequel il travaille, a tendance à disparaître.
Alors on est d'accord que les ornières sont rebouchées pour des raisons avec les chasseurs, les VTT, il y a différentes raisons.
Alors en fait, à partir de là, effectivement, je découvre que autour de l'ornière, il y a tout le monde de la forêt a une controverse en fait. Hein. Effectivement, les vététistes peuvent aimer plus ou moins hein, passer dans les ornières. Les chasseurs risquent d'agrémer à proximité des ornières dans lesquelles le sonneur se reproduit. Les marcheurs, randonneurs, promeneurs ont plutôt tendance à ne pas trop aimer qu'il y ait des ornières. Donc c'est pour ça qu'on demande aux bûcherons de les reboucher. Enfin bref, c'est vraiment un sujet de dispute comme l'humanité les aime. Et on a un petit crapaud qui mesure 3 cm et qui se retrouve au milieu de tout ça. Et donc quand Rémi me raconte cette histoire-là, le sujet de son travail en fait, hein, je trouve que c'est à la fois c'est cocasse parce que j'imagine un scientifique se présenter devant un bûcheron et lui demander d'arrêter de reboucher les ornières, j'imagine que le bûcheron a autre chose à faire.
C'est clair.
Et en même temps, je trouve ça hyper emblématique du paradoxe dans lequel on est placé, nous, humanité, aujourd'hui, par rapport aux problématiques de préservation de l'environnement. C'est vraiment emblématique, on a tous nos intérêts, nos habitudes, et préserver le vivant nous demande d'en changer résolument, quoi. Et donc là, bah, ça passe par ce petit amphibien qui devient une espèce d'animal totem autour duquel il y a un certain nombre d'acteurs de la forêt qui dans un premier temps s'écharpent et puis au fil de la pièce, en tout cas, et dans l'expérience qui se passe à Boulle-Taubois, vont trouver une issue et des solutions, quoi.
Voilà. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement, hein, ce que j'ai vu dans la présentation de ce spectacle, c'est que l'être humain est malencontreusement créé un lieu de reproduction pour les sonneurs à ventre jaune. Alors j'aime beaucoup ce mot malencontreusement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que la nature fait son petit chemin de son côté et qu'on n'y a pas forcément une incidence à part négative. Mais en tout cas, une incidence là pour le coup qui est plutôt positive. La reproduction, j'imagine que c'est mieux pour cette espèce en tout cas. Et surtout que c'est aussi une espèce qui est ancrée dans le territoire. Parce que j'ai découvert, alors soyons honnêtes, hein, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert qu'entre 2013 et 2018, il y a 64% des communes françaises dans lesquelles le sonneur est connu qui se situent dans la région Grand Est, d'où l'intérêt, j'imagine, de ce spectacle.
Oui, oui, tout à fait, on le trouve vraiment dans tout le quart nord-est, on le trouve dans la montagne de Reims, le sonneur entre jaunes, on le trouve en Belgique, en Allemagne, un peu en Suisse, en Bourgogne, voilà. Et effectivement, il nous rappelle qu'en fait... c'est pas un animal qui doit être placé sous cloche, qui doit être préservé, mis dans une réserve, éloigné de la présence humaine. En fait, c'est vraiment un animal qui nous pose le problème de notre coexistence avec la nature, qui nous rappelle que la nature et nous, en fait, c'est la même chose. On en fait partie. On n'en est pas. On s'en croit. On s'en est cru longtemps séparés, mais en réalité, on est partie liée avec elle. Et c'est ça qui est magnifique dans le sujet, en fait, hein. C'est ce rappel-là. Le sous-titre qu'on a donné au spectacle, c'est « La démocratie au secours du vivant », parce que les scientifiques qui travaillent sur le sonneur à Boulle-Taubois ont réussi, au travers de réunions multi-acteurs, à mettre autour de la table tous les acteurs de la forêt, hein, qu'on a cités, agents de l'ONF, bûcherons, conducteurs d'engins, randonneurs, chasseurs, élus locaux, etc. En leur posant la question, hein, il y a un amphibien qui est en voie de disparition dans notre massif, qu'est-ce qu'on fait? Et ces gens se sont mis à à essayer de trouver des applications concrètes, hein, des solutions pour sauver cet amphibien. Et c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai assisté à une réunion où on a une trentaine de personnes qui, pendant 2 heures, arrêtent leurs activités pour se poser la question de comment protéger ce crapaud, alors que tous ont, on pourrait penser qu'ils ont mieux à faire, quoi.
Et justement, les résultats de cette étude, en plus, on peut les retrouver, si je dis pas de bêtises, dans un livre, c'est ça ?
Ah oui, c'est vraiment... C'est une population. Alors l'étude du sonneur, hein, c'est quelque chose qui passionne les éthologues, les biologistes, etc. Et à Boultobois, ils publient régulièrement des thèses. Là, on a été en contact avec Clémence Allemand qui fait une thèse sur la possibilité de réintroduire le sonneur à ventre jaune sur le massif de la Croix-aux-Bois. Et avant elle, voilà, d'autres thèses ont été publiées. Donc il y a quelque chose dans ce que conduit le CERF, qui est le laboratoire d'études éthologiques à Boult, qui est assez emblématique et qui a un peu, qui pourrait presque servir de modèle de démocratie locale, où à une petite échelle on trouve des gens de bonne volonté, quoi.
Alors on parle beaucoup de ce petit animal, le sonneur à ventre jaune, mais le souci de la radio, c'est qu'on n'a pas la possibilité de vous donner l'image. Alors est-ce qu'on peut le décrire ? Est-ce qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur qui il est ?
Alors effectivement, il a plein de caractéristiques qui en font un être vraiment très attachant. Pour commencer, il est difficile à percevoir parce qu'il a une face dorsale verruqueuse, marron, grise, qui lui permet de se camoufler dans la boue de façon absolument résolument efficace. Mais il a un ventre jaune éclatant, avec des taches jaunes vifs qui font sa spécificité. Hein. C'est vraiment le sonneur à ventre jaune. Et ces taches jaunes signifient aux prédateurs qui s'aviseraient de vouloir le croquer, en fait, que c'est un animal toxique. Donc, quand un prédateur arrive, il fait volte-face, il présente son ventre jaune.
Attention, toxique, quoi. C'est ce que ça veut dire, finalement.
Exactement. Ça veut dire, attention, je suis toxique. Et il l'est, effectivement. Alors, on a affaire à l'amphibien le plus toxique d'Europe. Mais, pour nous, pas de crainte mortelle, hein, évidemment. Ça reste peut-être, on pourrait subir quelques irritations ou un petit peu un sentiment de brûlure, mais c'est assez bénin quand même.
Éventuellement, désagrément de l'odeur, bon moment, si j'ai bien compris, l'odeur aussi qui...
Oui, l'odeur, exactement, ouais. Alors une autre particularité aussi qui en fait, qui le rend attachant, c'est qu'il a des pupilles en forme de cœur. Et ça, c'est quand même assez hallucinant, ça ne s'invente pas, hein. Il a vraiment des cœurs dans les yeux. Voilà, il est vraiment quand on le connaît, on peut en voir, hein, dans la montagne de Reims, on peut en voir. Il est effectivement présent entre avril et octobre dans les ornières, des endroits où les ornières sont relativement ensoleillées, où l'eau est chaude. Et du coup, on sait maintenant qu'il faut y faire très attention.
Voilà, c'est ça. Au moins, ça nous permet de savoir ça dans un premier temps. Et justement, donc là, on a parlé finalement de cet amour pour ce petit amphibien qu'on ressent très bien à travers votre description. Alors forcément, c'est un spectacle qui en découle. Alors comment ça s'est passé, la création de ce spectacle ? Parce qu'il n'y a pas qu'un spectacle aussi, il y a beaucoup de choses aussi autour.
Oui. En fait, au départ, c'est une commande, hein, de... Suite à la discussion que j'ai eue avec Rémi Elder, le scientifique dont je parlais au début, il me dit, mais peut-être ça serait possible de créer une pièce pour aider à préserver cet animal, pour quelque part essayer de vulgariser un peu la connaissance de l'animal, etc. Et donc, de là a découlé une première étape qui était une commande faite par l'Université de Reims, le laboratoire du CERF et puis Acoustica, qui est une association qui est au croisement de l'art et de la science. Et nous, on a été, on s'est senti porté par ce projet. On s'est dit, on va le reprendre à notre compte et on va en faire vraiment un spectacle au répertoire de la compagnie. Et du coup, on prolonge, suite à l'expérience de 2024, qui était la commande, on prolonge cette année par une création qu'on envisage vraiment de tourner et autour de laquelle on a enrôlé un certain nombre de partenaires. voilà, qui s'intéresse à ce projet, les partenaires culturels, mais aussi les partenaires liés au monde de l'écologie.
Ils sont nombreux, voilà. Oui, en effet. On a partenaires du monde de l'environnement, les partenaires institutionnels, voilà, il y a une longue liste. Donc ça, c'est en ce qui concerne un petit peu l'idée de la jeunesse de ce spectacle, de ce concept, j'ai même envie de l'appeler finalement, puisque vraiment, c'est beaucoup de choses diverses et variées. Et comment on s'entoure, justement, pour ça, il faut trouver aussi d'autres passionnés, j'imagine, de ce petit amphibien, de toute l'histoire qui peut être racontée à travers lui.
Ouais, complètement. Alors, en fait, on a la chance, via le réseau du CERF, d'avoir pu rencontrer, au moment de l'écriture et tout au long de notre cheminement, d'avoir pu rencontrer les acteurs dont on parle dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on a mené une enquête dans les Ardennes, auprès de spécialistes, d'experts du sonneur, d'agents de l'ONF, de conducteurs d'engins. On a rencontré les personnages qu'on représente ensuite dans la pièce. On s'est fortement inspiré du terrain. Et pour moi, il y avait un double intérêt, celui de parler du sonneur, mais aussi celui de parler du milieu rural, qu'on a souvent tendance à caricaturer ou à oublier ou à rendre un peu invisible et dans lequel on trouve bien au-delà de tous les a priori qu'on pourrait projeter, on trouve des gens de grande valeur et de bonne volonté, des passionnés d'environnement ou des passionnés de nature, enfin avec parfois des points de vue très très divers hein, entre les chasseurs et les naturalistes. Mm-hmm. C'est pas du tout les mêmes points de vue, mais en tout cas on voit que les séparations un peu caricaturales sur le terrain, elles sont beaucoup plus poreuses que ce qu'on pourrait envisager de prime abord. Et ça, c'était aussi intéressant de ce point de vue-là. Donc, on a cheminé dans un premier temps avec cette enquête. On a aussi testé des choses auprès des collégiens. On a travaillé dans un collège des Ardennes, au collège de Grandpré. Beaucoup testé de versions du spectacle auprès de différents publics. Et puis, oublie quand même vous dire hein, que l'équipe, c'est donc un comédien sur scène, mais accompagné par une violoncelliste, Léonore Zielinski, qui a composé la musique du spectacle, un metteur en scène, Michael Monin, et puis toute une équipe aussi de concepteurs du décor, puisqu'on a créé autour d'une forme qui était très simple au départ, hein, un comédien violoncelliste. Là, on a enchâssé tout ça dans ce qu'on appelle une agora forestière, c'est-à-dire qu'on rassemble le public dans un dispositif circulaire qui accueille une centaine de personnes. On est assis en cercle et on se retrouve dans ce cercle-là qui est un petit peu gradiné, hein, qui est un peu comme dans une clairière. On se retrouve dans un premier temps autour de l'ornière, puis dans les réunions, puis dans des assemblées qui se posent des questions autour de la préservation du vivant. C'est vraiment un spectacle qui a quelque chose d'un peu immersif. Et donc c'est Valentin Monin et Barbara Mornet qui ont créé ce dispositif scénographe et éclairagiste de la pièce.
Et donc, vous avez dit que vous avez testé donc ce spectacle dans des établissements, parce que c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est à partir de 7 ans ?
Oui, alors, dans la version familiale, on va dire, dans la version tout public du spectacle, on peut dire que les enfants sont les bienvenus. Après, quand on tourne plutôt dans le milieu scolaire, là, on s'adresse à des publics de collégiens. Mmh. Voilà. Mais des enfants qui viendraient voir le spectacle avec leurs parents, je pense qu'ils trouveraient leur compte. On a déjà fait cette expérience-là.
Et pareil, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est que au-delà du spectacle, on en parlait, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, une exposition, je vois des podcasts. Est-ce que vous pouvez nous en parler également ?
Alors ça fait partie des projets, hein. Pardon. Là, on a la première le 19 mars, et à la suite de la première, on va effectivement créer une exposition qui sera articulée au spectacle.
D'accord.
Parce qu'effectivement, là-bas, on a affaire à un spectacle de théâtre. Donc, c'est du théâtre. Il y a énormément de choses qu'on me donne à imaginer avec des mots, avec du jeu, avec du corps. Mais énormément de choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'appréhende pas concrètement. Donc, il nous a semblé intéressant d'imaginer une exposition qui puisse délivrer un peu des connaissances mais de manière sensible. Par exemple, c'est un sonneur, hein, donc ça veut dire qu'il a un chant. Et donc, c'est intéressant de l'entendre. Donc, dans cette exposition, on aura des petits casques pour pouvoir entendre le sonneur. On pourra sans doute jouer à essayer de le discerner lorsqu'il est camouflé dans la boue. On pourra essayer de le voir et puis d'aller un petit peu plus loin sur la découverte de ces mystères parce qu'ils sont nombreux.
Et donc ça c'est donc le projet après les représentations. Donc nous on parle notamment de celle de mercredi 19 mars donc au campus Croix-Rouge. Comment on fait justement si on a envie d'assister à cette représentation ?
Alors je sais que pour les étudiants il y a une sorte de QR code qu'on peut télécharger et pour les autres publics. Il faut appeler l'université, je pense.
Et donc ça, c'est une des premières dates. Il y a déjà eu des représentations, il y en aura après ?
Alors, les représentations qu'il y a eu jusqu'à présent étaient, on va dire, des sorties de résidence. Hein. C'est ainsi qu'on les appelle, des tests, des tentatives. Il y en a eu un certain nombre, une bonne dizaine. Donc, on a testé un certain nombre
plein de
formules.
Plein de tentatives.
Voilà, et puis là, on va dire que c'est la vraie première, en plus chez nos partenaires à l'université, qui ont porté avec nous les débuts du projet et qui nous accueillent cette fois-ci le 19, puis le 27 mars, mais ça sera plus pour des étudiants, à Charleville-Mézières. Ensuite, on a trois représentations dans les collèges autour, dans la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne, autour d'Aï, donc à Aï, à Côte-le-Gris, et puis à Vertu. Il y aura une représentation à Saint-Dizier pour la LPO. Sans doute à nouveau dans les Ardennes, au mois de mai, on attend une confirmation. Et puis on sera présent au Festival d'Avignon, sur le campus de la Fac d'Avignon, pour cet été, au mois de juillet, porter plus loin la diffusion de ce spectacle. Mais on le retrouvera la saison prochaine, sera programmé notamment à Germaine, sans doute pour la fête de la science avec nos complices d'Acoustica. C'est un spectacle que je pense on va pouvoir voir un certain nombre de fois. Enfin, j'espère.
Et quand c'est ouvert au grand public, c'est gratuit ?
Alors oui, là les représentations de ce mercredi sont effectivement l'entrée est libre.
Et donc, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs dates. Ça met combien de temps, en fait, déjà, il y a la partie création, mais à partir représentation, on peut estimer que ça fait combien d'années que vous êtes sur ce spectacle ?
Alors là, ça va faire un an et trois mois, à peu près. Hein. Si j'enlève la partie, on va dire, de germination de l'idée qui était en amont, on va dire, de quelque chose comme six mois. Bon, ça fait un an et demi, on va dire, hein, qu'on mûrit ce projet et qu'on le... J'allais dire qu'on le porte, mais en fait c'est plus lui qui nous porte. Et puis après, un spectacle, la durée d'un spectacle, après, elle ne nous appartient pas. On espère que celui-ci puisse voyager assez longtemps, mais on a plutôt une bonne étoile, voilà. Une bonne intuition par rapport à ce projet-là qui non seulement permet de travailler localement dans les Ardennes, dans la montagne de Reims, comme je disais, mais il y a plein d'endroits où il y a des sonneurs, il y a plein d'endroits où cette problématique elle est peut-être soulevée, connue, et puis pas seulement en fait, aussi parce que c'est à nouveau, je le dis, une espèce d'animal emblématique. Quand j'ai commencé l'enquête sur le sonneur à ventre jaune, ma première rencontre était avec des techniciens de la zone Natura 2000 de la communauté de communes de l'Argonne ardennaise. Ils me disent « Ah non, mais c'est pas sur le sonneur aujourd'hui qu'il faut faire un spectacle, c'est sur le castor. » comme première parole, c'était un peu désarçonnant, mais j'ai compris. En fait, les castors s'étaient installés sur un des endroits Natura 2000 dont ils avaient la charge et avaient inondé parce que les castors sont des ingénieurs ingénieux, ils avaient inondé des hectares et des hectares d'exploitation agricole. Et donc, et comme c'est une espèce protégée, il n'y avait pas de possibilité d'intervenir sur ces barrages parce que c'était détruire la zone d'habitation du castor. Et donc, j'ai compris que en fait, le sonneur, il sonne une alarme, en fait. Il nous permet de nous exercer, nous, de commencer à voir comment on peut se pencher sur ces questions-là, je dis nous, humanité, parce qu'il va bientôt y avoir d'autres questions qui nous attendent et qui seront, et on le voit, hein, elles sont déjà là, oui. Des questions autrement plus graves, autrement plus, parfois, plus dramatiques, qui vont demander à ce que notre capacité à dépasser nos disputes et nos propres intérêts va être vaillamment sollicitée dans les années à venir.
Et après, qui sait, finalement, le castor peut être la thématique du prochain spectacle, peut-être.
Ben, c'est, voilà, oui, c'est quelque part.
Ça peut toujours donner des
idées.
Dans ces
cas-là, on se dit que il y a des anges qui nous parlent à travers les gens à qui on s'adresse. Ouais.
C'est vrai. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Vraiment hâte de découvrir donc ce spectacle, pour rappel, le mercredi 19 mars au campus Croix-Rouge. Il y a toutes les informations qui seront retrouvées sur le podcast de Radio Primitive pour s'inscrire. Merci, en tout cas, à Vincent, Claire Gironet, pour avoir pris du temps, répondre à nos questions. Et puis, ben, bonne première, même si c'est pas vraiment
merci
la première, mais on s'entend. Merci
D'accord,
beaucoup.
D'accord, très bien. Merci infiniment.